Bonjour et bienvenue à Point de vue, Boris Chassagne qui vous accompagne pour la prochaine demi-heure. Au sommaire, la communauté anglophone de la Basse-Côte-Nord au Québec s'inquiète de l'adoption de la loi 96 et de ses impacts.
Si en plus les médecins ne peuvent pas s'adresser aux gens dans leur langue puis qu'on n'a pas d'autres services d'appoint, c'est là que ça devient stressant, là.
Au Manitoba, la maison de production Manito Media a le vent en poupe, si bien qu'elle est à la recherche de nouveaux talents pour satisfaire ses projets d'expansion.
On a encore besoin de plus de monde. On a plein d'idées, on a plein de beaux projets dans notre communauté, mais ça nous prend du bon monde d'ici, des professionnels avec des spécialités. Donc, ceux qui écoutent, puis qui se disent « Ah, est-ce que je devrais peut-être aller étudier en communication à l'Université de Saint-Boniface? » Absolument, allez-y.
En Alberta, la région de Rivière-la-Paix pourrait d'ici peu être le berceau d'une nouvelle usine. Neolithica, en pleine campagne de relations publiques, espère décrocher un premier rôle dans la production de lithium. Et on fera le tour de l'actualité au pays dans notre nouvelle chronique Périscope.
C'est important pour moi de rencontrer les intervenants pour entendre c'est quoi les enjeux, c'est quoi les priorités, puis c'est quoi la réalité sur le terrain.
Bienvenue à Point de vue. L'adoption du projet de loi 96 par le gouvernement du Québec le 24 mai dernier inquiète les communautés anglophones de la province et notamment celles des Coasters de la Basse-Côte-Nord. Parmi les préoccupations soulevées, on note l'accès à des soins de santé en anglais, la francisation des entreprises et des organismes de plus de 25 employés, de même que l'accès à l'éducation en anglais. Pénélope Clermont s'est entretenue avec Kimberly Buffett de la Coasters Association et Karine Monger, directrice générale de la MRC du Golfe du Saint-Laurent, pour en savoir plus sur les inquiétudes qui habitent les Coasters face à la loi 96. Madame Buffett expose également les défis que rencontrent les communautés anglophones au Québec.
Le gouvernement du Québec a adopté le 24 mai le projet de loi 96 qui se veut une réforme de la loi 101. Cette nouvelle loi aura un impact dans les communautés anglophones du Québec, dont en Basse-Côte-Nord. J'ai pu parler à Kimberly Buffett de la Coasters Association ainsi qu'à Karine Monger, directrice générale de la MRC du Golfe du Saint-Laurent, qui ont pris le temps d'exposer les inquiétudes qui habitent les anglophones de la Basse-Côte-Nord. Inquiétudes qui viennent entre autres de l'incertitude qui règne autour de ce projet de loi dont on ne connaît pas encore tous les tenants et aboutissants. Parmi les préoccupations premières des Coasters, on note la crainte de ne plus avoir accès à des soins de santé en anglais. Il y a eu beaucoup de rumeurs à ce propos et même si le premier ministre François Legault a indiqué que la loi 96 n'empêchera pas les anglophones et les immigrants de se faire soigner dans la langue de leur choix, ça fait partie des inquiétudes, d'autant que ce n'est déjà pas évident d'évoluer dans le système de santé si on est anglophone, comme l'illustre dans l'extrait qui suit Karine Monger, directrice générale de la MRC du Golfe du Saint-Laurent.
Pas tout le monde qui est capable de parler en anglais, même aujourd'hui. Non? Si une personne anglophone se déplace vers l'hôpital de Sept-Îles, il y a des médecins qui sont capables de recevoir ou de parler avec, de converser avec cette personne-là en anglais, mais il y en a qui ne le sont pas. Mais au moins, il y a des services qui sont en place. Puis si la personne est complètement, n'a pas les moyens ou sait que son médecin ne peut pas s'adresser, on sait qu'il y a des services d'un patient navigator présentement. Même chose du côté Québec. Mais tant et aussi longtemps que ces services-là demeurent, ben au moins, c'est déjà ça. Mais si en plus, les médecins ne peuvent pas s'adresser aux gens dans leur langue, puis qu'on n'a pas d'autres services d'appoint, mais c'est là que ça devient stressant, là.
Une autre préoccupation tient dans la réglementation qui entoure les entreprises ou les organismes de 25 employés et plus. Comme le rapportait récemment Radio-Canada, le projet de loi prévoit notamment la francisation de toutes les entreprises comptant au moins 25 employés. Jusqu'à présent, cette mesure ne concernait que celles ayant au moins 50 employés. Le projet de loi donne aussi de nouveaux pouvoirs à l'Office québécois de la langue française qui pourrait exiger qu'un comité de francisation soit formé dans ces entreprises. Kimberly Buffett de la Coasters Association n'était pas en mesure de chiffrer le nombre d'entreprises que cette mesure pourrait affecter, mais elle en parle comme d'un élément important de cette nouvelle loi qui toucherait notamment la Coasters Association. Elle rappelle aussi que la Basse-Côte-Nord compte plusieurs unilingues anglophones qui auraient du mal à évoluer en français si cette condition devenait obligatoire. Également, la question de l'éducation est préoccupante pour les coasters, dont les jeunes qui iront au cégep et qui devront suivre plus de cours de français. De plus, il y aurait un accès plus restreint aux écoles anglophones pour les francophones qui voudraient y accéder, au dire de Mme Buffett. Dans un autre ordre d'idées, je me suis permise de demander à Kimberly Buffett pour quelles raisons, selon elle, les coasters uniquement anglophones ne parlent pas français. Je vous laisse écouter sa réponse et je traduirai par la suite.
I think they're trying. Like, I think our children are much more bilingual. Like, if I look at myself, I'm 47 years old. When I went to school on Lorna Shore, there wasn't so much French in the school as it is today. You know, my children growing up right now, they speak French when they go places. They can read and they can write. There's a lot of improvements. So I think there's almost two generations on the Lorna Shore, that you have a generation that's more bilingual, which is our children. And then the older generation that's more unilingual anglophone.
En résumé, Madame Buffett souligne qu'elle pense que les anglophones essaient de parler français, mais ce n'est pas qu'ils ne veulent pas. Selon elle, la nouvelle génération de coasters est plus bilingue que sa propre génération. Âgée de 47 ans, elle mentionne que quand elle allait à l'école en Basse-Côte, il y avait moins de français à l'école qu'aujourd'hui. Résultat, ses enfants, contrairement à elle, parlent français, le lisent et l'écrivent. Il y a donc, selon elle, deux générations d'anglophones, les plus jeunes qui sont bilingues et les plus âgés qui sont davantage unilingues. En dehors de cet extrait, elle a souligné avec le sourire combien le français était une langue difficile à apprendre et que le fait de vivre dans des communautés anglophones n'aide pas à l'apprendre, le pratiquer et le maîtriser. Ce qui est dommage, comme l'évoque Mme Buffett dans l'extrait que j'ai à vous présenter, c'est qu'un projet de loi comme celui-ci crée de la tension entre francophones et anglophones, dit-elle. Il fait aussi en sorte, toujours selon elle, que ces derniers ne se sentent pas bienvenus au Québec. Heureusement, en Basse-Côte-Nord, elle a l'impression de vivre plus en harmonie avec les communautés francophones et inoues, comme si on était dans une petite bulle, dit-elle, mais qu'en dehors de celle-ci, ce n'est pas facile.
It's not easy being an Anglo. And bills like this create a lot of tension, and the English people feel like they're not welcomed. And, you know, I think on the Lorna Shore, we live a lot more in harmony between the communities. And so sometimes we're in our little bubble. But, you know, on the exterior, it's very difficult.
C'était Kimberly Buffett de la Coasters Association qui parlait au nom des Coasters concernant le projet de loi 96. En terminant, autant la MRC du Golfe du Saint-Laurent que la Coasters Association ont affirmé être en contact avec d'autres communautés bilingues du Québec, statut bilingue d'ailleurs qu'ils espèrent ne pas perdre avec la mise en application de la nouvelle loi. Ils entendent poursuivre le travail de représentation qu'ils font auprès des différentes instances gouvernementales pour les sensibiliser aux réalités et aux besoins de notre région, comme mentionné dans un communiqué de presse de la MRC.
Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLJI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
En Alberta, la région de Rivière-la-Paix pourrait d'ici peu être le berceau d'une nouvelle usine de lithium. L'entreprise Neolithica est d'ailleurs en pleine campagne de séduction pour convaincre les élus et les citoyens de la région que l'entreprise est saine d'un point de vue environnemental et qu'elle contribuera aussi à l'essor économique de la région. Neolithica s'est d'ailleurs présentée devant le conseil municipal de la Northern Sunrise County pour parler de son projet. Les technologies mises de l'avant par la compagnie promettent, au dire de l'entreprise, d'être durables et écologiques. Justine Dubrulle, à Rivière-de-la-Paix en Alberta, s'est entretenue avec les responsables de cette compagnie canadienne, de même qu'avec Caroline Kolebaba, la préfète de Sunrise County, dans l'extrait qui suit.
Very excited about the project, and hopefully all goes well within the next couple of years, and they will be producing lithium. We look forward to helping them in any way we can to move that project forward.
Le comté espère que tout ira bien avec ce projet et est prêt à aider la compagnie autant que possible. Le projet de production de lithium n'est pas finalisé. Des tests doivent encore être faits afin de déterminer exactement dans quel comté, dans quelle municipalité se situeront les sites de production. On écoute Mark Preston, directeur du marketing à Neolithica Limited, nous donner un aperçu de la compagnie pour laquelle il travaille et du projet.
a fairly recent company. We started the company last June, Neolithica, and we acquired well over 1,000 square miles of tin.
La compagnie est jeune. Nous l'avons lancée en juin dernier. On a procédé à l'acquisition de 1000 km carrés de terre entre Peace River et Grande Prairie. Notre intention est de forer jusqu'au réseau aquifère, lequel contient une eau saturée de sel et qui contient aussi du lithium, de même qu'une foule de minéraux. On va en extraire ce qu'on appelle une liqueur de lithium, qui prendra alors la direction de la raffinerie pour en faire du carbonate de lithium pur à 99,5%.
And inside the brine is the lithium. So the brine itself has all kinds of different things in it, manganese, sulfurs, salts, all kinds of other minerals as well. But we're primarily just interested in the lithium because the lithium for us, once we take that out, we concentrate it in what we call a lithium liquor, and it's a concentrated batch. And that concentrated batch goes to the refinery, and then it gets refined down to 99.5% or better for battery-grade lithium carbonate. Lithium itself is used also in ceramics. It's glass for adding in the polymers when they're making glasses for certain productions. It's also used.
Le lithium est aussi utilisé dans la production de verre, de lubrifiants, mais aussi dans le secteur médical. 80% de ce qu'on produira sera destiné à l'électrification des véhicules automobiles.
Towards the electrification on these cars and things that. You know, we will be supplying.
Le lithium est utile pour plusieurs différentes choses, comme la fabrication de batteries, de verre, de céramique et même dans le milieu de la santé. Un projet pilote commencera vers la fin de l'été ou vers le début de l'automne pour démontrer l'efficacité de la technologie qu'ils utilisent. Mark Preston est confiant que leur technologie est efficace car ils sont partenaires avec une autre compagnie de production de lithium, Conductive Energy, qui utilise la même technologie en Californie et ce, avec succès. Le projet pilote dans la région de Rivière-la-Paix servira à évaluer la qualité du lithium. Après cette étape, Neolithica devra déterminer l'emplacement du site principal, réaffecter 6 à 10 opérations de forage, extraire le produit, le transporter dans des camions-citernes à la raffinerie qui sera située entre Peace River et Grande Prairie. Cette industrie apportera beaucoup à la région. On écoute Preston parler des avantages économiques.
For us, we feel that there's quite an economical impact because our first tranche will be probably $20 million. And then it will exercise back up to what we call full capex, in other words, full scale production, to be able to produce 20,000 tons.
On estime que le projet aura un impact positif. On devra dans un premier temps investir 20 millions de dollars. On devrait à terme pouvoir produire près de 20 000 tonnes de lithium chaque année. Pour arriver à ce chiffre, on devra investir près de 400 millions supplémentaires. La Chine, par exemple, doit avoir complété sa transition dès 2035. D'autres pays, en 2050, l'Alberta pourrait devenir un fournisseur mondial de premier ordre. On est très excités.
Alberta could really be a global supplier in all of this. But generally speaking, we're tremendously excited to start up in the north. We basically have years and years and years of work that we could supply. The global numbers, if you look at global numbers, the world right now consumes about 350,000 to 400,000 tons of lithium for its batteries and medical and ceramics and all the rest. The demand is 10 times in 5 years. So you see, there's a big rush on here to try to who can supply it. Whoever gets to the front race here pretty quick with the technology is going to make a lot of money.
Comme le dit Preston, c'est une industrie très prometteuse et non seulement du côté économique. Écoutons-le parler de la durabilité et des effets positifs sur l'environnement.
The reason that it's very unique and very low carbon and very friendly, eco-friendly, is the fact that we call it.
L'exploitation de lithium a une empreinte carbone très faible du fait que son exploitation se fait en circuit fermé. On pompe l'eau et le lithium qu'elle contient et une fois extrait, on renvoie une eau encore plus propre dans le réseau aquifère à une profondeur d'environ 2500 mètres.
down the hole. So in other words, we're keeping the pressures there. We're just putting actually cleaner water back down into the aquifer, and we're just taking the lithium out in a closed loop. So the environmental footprint on this is very low. We're not going after hard hydrocarbons or anything of the sort. So there's no stack, there's no burning or any of that kind of stuff because we're so deep down. We drilled down 2,500 meters.
Comparée aux autres technologies de production de lithium, celle-ci est très écologique. En extrayant le lithium, ils peuvent ensuite faire redescendre l'eau filtrée et encore plus propre dans la terre.
C'était un reportage de Justine Dubrulle en Alberta. Alors, on fait une petite tournée des sujets qui ont marqué l'actualité des derniers jours au pays, vus par nos journalistes qui sont aux premières loges. À Ottawa, la littérature s'affiche dans de nouveaux sentiers. Avec l'événement Poètes de la capitale, les écrits de 22 poètes sont mis en valeur et reproduits sur des affiches disséminées dans différents quartiers de la ville. Notre journaliste Yasmina Dagri en a parlé avec l'ambassadeur de l'événement et écrivain Gilles Latour. Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, n'a pas eu trop de mal à se faire réélire le 2 juin dernier. Il est sorti du scrutin avec une forte majorité. Son parti progressiste conservateur a raflé 83 des 124 circonscriptions de la province, dont celle du comté de Simcoe, qui a gardé sa couleur bleue, nous apprend notre journaliste Marc Lalonde, posté à Penetanguishene. Le taux de participation à cette élection a été extrêmement faible, de l'ordre de 45%, mais si les moins de 18 ans avaient voté, le résultat aurait été tout autre, révèle une simulation électorale qui a été offerte à 250 000 élèves ontariens du primaire et du secondaire, notre journaliste Marc Lalonde.
On a incité les jeunes à découvrir le gouvernement, la démocratie, faire des recherches sur les partis, les plateformes. On a débattu en classe et puis on a fait le vote. Eh bien, 252 680 votes ont été signalés dans 1672 écoles. Et selon le vote des jeunes, ben, le NPD a obtenu 28% du vote populaire et remporté 75 sièges.
Wow!
Les libéraux font l'opposition avec 28 sièges. Quand même, les libéraux ont remporté le 22% du vote. Et le Parti progressiste conservateur a recueilli 18,7% des votes des jeunes. Il a remporté 17 sièges.
Le Polaroid fait un retour en force, oui. La Maison des artistes visuels francophones de Saint-Boniface et le Centre Plateforme de Winnipeg au Manitoba se joignent à la fête. Ils ont invité Annie-France Noël, une artiste acadienne originaire de Caraquet, qui habite le Nouveau-Brunswick, à y présenter un atelier de création Polaroid.
Les gens étaient très curieux de voir comment j'ai fait pour créer des œuvres comme ça à partir du Polaroid parce que je vais vraiment au-delà de la prise de l'image. Donc, j'ai eu l'idée à un moment donné, avec les questions et l'intérêt des gens, d'offrir un atelier comme ça où j'explique un peu mes découvertes, mes techniques. J'offre aux gens, c'est ça, la chance de vraiment mettre les mains à la pâte et de pouvoir explorer, de voir comment on peut aller au-delà de juste la prise d'image, de vraiment voir la photographie comme un médium qui est vraiment manipulable avec nos mains. Je fais une démonstration de 4 techniques distinctes. Puis ensuite, on s'amuse.
La ministre fédérale des langues officielles et responsable de l'Agence de promotion économique du Canada Atlantique, Ginette Petitpas-Taylor, effectue une tournée du pays dans le cadre de la deuxième consultation pan-canadienne sur les langues officielles. Ginette Petitpas-Taylor a lancé sa tournée le 24 mai et elle doit prendre fin le 31 août prochain. Une tournée où elle a pour mission de rencontrer les communautés francophones, d'écouter leurs doléances et de partager leur réalité. Elle s'est entre autres déplacée à Winnipeg et Saint-Boniface.
J'ai eu la chance de rencontrer des intervenants qui travaillent d'arrache-pied pour soutenir la communauté. Il y a une croissance au Manitoba à cause de cette vitalité-là aussi. C'est important pour moi de rencontrer les intervenants pour entendre de vous c'est quoi les enjeux, c'est quoi les priorités, puis c'est quoi la réalité sur le terrain. On reconnaît qu'il y a un déclin du français de notre pays, incluant le Québec. S'assurer qu'on va faire le travail nécessaire pour s'assurer que la loi, nouvelle voix sur les langues officielles va rencontrer les besoins du 21e siècle. Et puis pour le faire, on doit appuyer nos communautés, nos intervenants, le post-secondaire, nos groupes communautaires, ainsi que les institutions communautaires.
Bonjour, ici Judy Desalliers au Nouveau-Brunswick. Vous écoutez Point de vue. Suivez-nous sur Twitter à CanadaLGI, @CanadaLGI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca.
La maison de production Manitou Media est à la recherche de nouveaux visages pour sa série El Toro. L'un des trois membres fondateurs de cette maison de production franco-manitobaine, Charles Clément, dit Chuck, est producteur, animateur, comédien et scénariste. Il a travaillé pour de nombreux diffuseurs tels que APTN, Shaw, CBC, Canwest Global, TSN et la SRC. Il a été diplômé aussi de nombreux programmes d'études en cinéma, notamment au Royaume-Uni et en Australie. Ses frères Patrick et André et lui sont à la tête donc de Manitou Media, mais aussi de Media Rendez-vous, des maisons de production franco-manitobaines et autochtones fondées entre 2007 et 2011. Ces maisons de production se spécialisent dans le contenu multiplateforme. Aurélie Nana Forsen s'entretient avec Charles Clément, fondateur de Manitou Media. Il nous parle de ses passions et de ses projets.
Bonjour Charles.
Bonjour Aurélie, bonjour Guy.
Qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette maison de production?
Je crois que c'était les mêmes motivations que j'ai eues en 1995 quand je venais ici travailler à la radio de CKXL 91,1 FM. C'était cette passion de vouloir raconter des histoires. J'ai toujours eu ça, moi, à cœur depuis que je suis petit garçon là, qui parcourait les rues de Saint-Boniface sur son vélo, puis qui faisait des petites scénettes autour de la maison, puis des pièces de théâtre communautaire. Donc, de raconter des histoires, ça a toujours été dans moi. Et puis, ça l'est encore aujourd'hui à l'âge de 46 ans. Donc, quelle meilleure façon que de le faire à la télé, en famille, en communauté. Alors, ça vient de là. Puis, ce que ça fait quand on est dans le monde de la production de télé et étant généraliste, parce que quand on vit à Saint-Boniface et non pas à Toronto ou à Montréal, où on peut se spécialiser vraiment dans un genre de télé, que ce soit en musique et variété, en documentaire, en jeunesse, en fiction, en télé lifestyle ou dans des magazines, on est en milieu franco-minoritaire où on doit être généraliste. On fait de la production de tous les genres. Donc, ce que ça nous donne la chance de faire, c'est de découvrir tellement de beaux sujets, de belles personnes, de belles communautés partout au pays. Donc, chez Manitou Media, on a vraiment eu la chance de tout faire. C'était une très bonne chance jusqu'à présent de faire du jeunesse, de l'animation, des documentaires en masse, de la musique et variété, et de plus en plus maintenant de la fiction, parce qu'on entame très prochainement notre deuxième grande série fiction. Elle s'appelle El Toro. Donc, El Toro, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est une histoire inspirée du documentaire de Danielle Sturck qu'elle a fait, le documentaire est inspiré de la famille de Danielle, la famille des Gagné, qui était propriétaire d'un restaurant sur la rue Marion dans les années 60 qui s'appelait El Toro. Fast forward, 60 ans, nous voici en 2022. Ouais, 60 ans, wow. À Saint-Boniface, on va produire une série de 6 fois 1 heure en fiction, et c'est avec Radio-Canada, nos chers partenaires en télédiffusion, qu'on va produire cette année. On va passer devant la caméra entre le mois d'août et le mois d'octobre, et la série va être diffusée l'année prochaine en 2023. C'est cette grande histoire qui raconte l'histoire de la famille Charbonneau à Saint-Boniface dans les années 1960, et leur casse-croûte délabrée au fond de la rue Marion dans les vieux quartiers des abattoirs industriels à Saint-Boniface. C'est une histoire de famille et surtout racontée du point de vue de la plus vieille des sœurs dans la famille qui s'appelle Rosanne.
Et y a-t-il un projet en particulier dont vous soyez personnellement particulièrement fier?
Oh! Tous nos séries, que ce soit des séries documentaires, jeunesse, animation, fiction, quoi que ce soit, sont tous spéciales pour nous. D'abord, si on les produit, ces émissions-là, c'est parce qu'on veut s'impliquer, puis on a une passion pour le sujet, puis on veut communiquer, diffuser ces histoires-là aux autres. Mais si j'avais à dire le projet, c'est plutôt le projet communautaire dans lequel on est tous impliqués à faire rayonner les histoires du Manitoba en compagnie de tous ceux et celles qui sont ici avec nous, soit depuis toujours ou qui se réunissent avec nous au Manitoba francophone depuis pas longtemps. Donc, la communauté a beaucoup grandi au niveau de la communauté de production. Tous ceux qui travaillent comme pigistes dans leurs différentes spécialités et les maisons de production qui existent maintenant au Manitoba, entre nous et les productions Rivard et les producteurs, productrices Jérémy et Janelle Wookie de Wookie Films. Et parmi toutes les pigistes qui travaillent maintenant avec nous, c'est ça le projet duquel je suis le plus fier, parce qu'on commence vraiment à rayonner, de s'épanouir de plus en plus. Mais là, je fais une annonce publicitaire pour tous ceux et celles qui nous écoutent. On a regroupé de plus en plus de gens dans la communauté de cinéastes, de producteurs, productrices, scénaristes, etc. Mais on a encore besoin de plus de monde. C'est ça la plus grande chose en ce moment, c'est qu'on a plein d'idées, on a plein de beaux projets dans notre communauté qui émanent partout sur la planète, mais ça nous prend du bon monde d'ici, des professionnels avec des spécialités. Donc, ceux qui écoutent, puis qui se disent « Ah, est-ce que je devrais peut-être aller étudier en communication à l'Université de Saint-Boniface? » Absolument, allez-y!
C'était Charles Clément au micro d'Aurélie Nana-Forson. Voilà qui complète cette édition de Point de vue. Suivez-nous sur Twitter, @CanadaLGI, CanadaLGI. Écoutez tous nos reportages sur canada-info.ca. Cette émission est une production du Fonds canadien de la radio communautaire à Ottawa. On remercie nos journalistes Marc Lalonde, Aurélie Nana-Forson, Justine Dubrulle, Daniel Aucoin, Yasmina Dagri et Pénélope Clermont. Merci à Stéphane Bénard, notre coordonnateur national, Boris Chassagne à l'animation et à la réalisation. Merci d'être avec nous. Restez à l'écoute de l'émission qui suit. À bientôt.